de chômeurs, de travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que péniblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir. C'est Eric Gore. Chaque semaine, sur les Goligarigues de Montpellier, Canassie de Toulouse et Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. La locale aussi à Saint-Giron. Eric Gore, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va commencer par vous parler un petit peu d'une manifestation qui a eu lieu à Flamanville ce week-end. On aura normalement quelqu'un au téléphone pour nous dire un peu ce qu'il y était, lui, ce qu'il a pensé. Et puis aussi, peut-être avant, vous parler un peu ce qui a failli se passer à Calais, une manifestation qui a tout de même eu lieu, mais il faut dire que là, on rentrait complètement dans l'état d'urgence. C'est ainsi que de 4 cars venant de Paris, de 200 personnes environ, ont été bloqués sur l'autoroute par la gendarmerie et ont dû rebrousser le chemin. Sur place, la manifestation a été interdite sur décision de la préfète de Lille. Cette manifestation a tout de même eu lieu un peu, mais bon, c'est sûr, alors faut rappeler quand même que l'enjeu est important. Il s'agit pour l'État eh bien de virer, de manu militari, 10 000 réfugiés qui veulent passer en Angleterre. C'est un débat, je pense qu'on va revenir dans une émission là-dessus, parce que c'est loin d'être clos cette histoire, puisque de toute façon, que l'État français va-t-il faire de ces 10 000 personnes qui sont actuellement à Calais? Les dispatcher, peut-être, mais ça sera très difficile de toute façon. Ces gens-là ne veulent pas rester en France, veulent aller en Angleterre. La plupart du temps, ils ont là-bas de la famille, ils ont généralement beaucoup plus de possibilités certainement de s'en sortir qu'en France, et en plus, comme ils le disent souvent, eh bien la France est loin d'être un pays accueillant pour les réfugiés aujourd'hui. Voilà, alors je crois qu'on a le copain au téléphone. Oui.
Oui, alors on va retrouver ce soir Michel Marie, qu'on a déjà eu pas mal de fois à notre antenne, qui revient de Flamanville. Bonsoir Michel. Alors déjà, on fera un peu le point sur cette manifestation, ce rassemblement à Flamanville contre l'EPR, notamment. Après, on parlera d'un petit village près de Bure, à 30 km de Bure, où il y a un projet pour 2018 de centre de traitement des ferrailles radioactives. Je vais appeler ça comme ça, on corrigera après si c'est nécessaire. Et ensuite, on reviendra peut-être sur comment tu as perçu cet été d'urgence, cette très forte mobilisation de l'été au bois de Mandre, en forêt de Mandre et autour de Bure. Voilà, et ben c'est à toi de jouer. On commence par Flamanville, si tu veux bien. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au cours de cette dernière mobilisation?
Ben, c'est une mobilisation effectivement nationale qui avait été annoncée il y a maintenant quasiment un an. Sinon plus, où c'était en fait une vingtaine d'associations locales. Alors, associations locales, c'est pas péjoratif, hein. Il y a des grosses associations comme le CRILAN, par exemple, de Didier Angers, mais il y en a bien d'autres, et une vingtaine de ces associations s'étaient mises en commun pour donner un gros coup de projecteur sur le fameux EPR de Flamanville, puisque maintenant c'est un nom qui est connu un peu partout dans le Cotentin, juste en dessous de la Hague. Et donc l'idée, c'était non seulement de focaliser sur le fameux EPR et toutes ces casseroles, mais également sur ce que EDF appelle son grand carénage, c'est-à-dire la remise à niveau sécuritaire, soi-disant, de nos 58 réacteurs. Et puis, ça allait jusqu'aux déchets, puisqu'on a, traité également de l'aboutissement de la filière nucléaire et de la problématique des déchets, évidemment, bien mise en lumière, comme tu l'as dit, tout cet été. Voilà, donc c'était ça un petit peu tout ce qui se passait à Flamanville.
Et donc, en fait, tu as l'air de dire qu'il y avait eu, il y a eu des mobilisations, des marches, et il y a eu également des conférences, en fait.
Oui, puisque c'était sur deux jours, donc avec des conférences. Bon, déjà le samedi, il y en avait un petit peu avant le démarrage de cette marche à 14h, puisque le samedi, alors, et tout le dimanche, c'était justement des conférences diversifiées, bien entendu, sur la thématique. Je n'ai pas pu assister le dimanche, mais le samedi, c'était le gros morceau, puisque c'était un départ d'un petit port qui s'appelle Dialette, enfin, Sioville, Dialette, et on aboutissait en longeant la mer, au bout de quelques kilomètres, 4-5 kilomètres, on aboutit juste au port de la centrale de Flamanville, donc ça, c'était important, parce que ça a permis aux gens qui venaient très loin, puisqu'on avait des Alsaciens, des Champenois, des gens d'un peu partout, hein, de la France, bien sûr, et on est arrivé jusqu'aux portes de Flamanville avec les gardes mobiles de l'autre côté des portes de la centrale, bien entendu. Donc c'est important, c'était très très coloré. Alors la police dit 2700 manifestants, donc on a l'habitude maintenant de multiplier non plus par 2 mais par 10, hein, comme si on n'est plus sûr du nombre. Alors j'exagère un peu, les organisateurs parlent de 4000 à 5000 personnes, mais il est vrai que j'entends les journalistes qui disent que quand ils étaient postés sur la colline, bon, il y avait vraiment, la route était pleine de manifestants sur bien 2 kilomètres, donc il y avait du monde, c'était très important de se retrouver et de se retrouver un peu de temps en temps comme ça dans ce genre de manifestation.
D'accord. Et alors, quel était le climat lorsque, bon, l'État effectivement a montré ses forces, a affiché ses forces, parce qu'il ne veut pas faire marche arrière sur cette aberration que constitue l'EPR. Je ne sais plus, tu peux rappeler quand même, au départ, on en était parti avec une évaluation de quelques milliards, et je ne sais plus à combien on en est là.
Oui, bah les EPR étaient, alors on parle de celui de France, puisqu'il n'y en avait qu'un dans les tuyaux. Il y en a eu plusieurs, mais il n'y en a qu'un qui est mis à terme, si on peut appeler ça à terme, en ce moment, mais il y en a encore deux qui avaient été vendus auparavant, un, j'allais dire une bêtise, auparavant, donc en Scandinavie, en Finlande, et puis les fameux deux actuels dont on parle en Angleterre, mais en Grande-Bretagne, on n'en est pas encore là, ceux-là sont sur le papier sans plus. Mais les deux qui sont effectivement en construction, Flamanville et la Finlande, la facture explose, puisque chaque réacteur devait coûter 3 milliards d'euros, 3 milliards et demi, et on a dépassé à l'heure actuelle les 10 milliards d'euros, puisque le calendrier a explosé complètement, il y a des malfaçons, il y a des difficultés techniques extraordinaires, enfin bon, on est là, c'est quelque chose d'invraisemblable. Mais ce qui est très embêtant, tu l'as souligné, c'est que le décideur, donc les élus, les gouvernements, insistent bêtement, lourdement, et vont même jusqu'à essayer d'en vendre en Angleterre. Donc ça pose vraiment question. Et alors c'est vrai que ça rejoint la manifestation de Flamanville. Est-ce que, j'allais dire en étant un peu corrosif, est-ce que ça a une utilité? Parce qu'en face de nous, on a l'impression que le décideur est complètement autiste. On n'est plus du tout dans le bon sens. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus rien. Donc, alors, quand je disais que la manifestation de ce week-end est à l'utile, j'allais dire oui, là, forcément, la réponse est oui, parce qu'il faut, de toutes les manières possibles et imaginables, il faut que le citoyen se prenne en main, secoue le cocotier pour revenir justement du bon sens.
Est-ce qu'au niveau technique, les problèmes sont loin d'être résolus aujourd'hui, d'après ce qu'on sait?
Alors, il y a de graves problèmes dans les EPR, puisqu'on a même le bloc sécurité qui pose des problèmes. Hein. On a eu l'autorité de sûreté nucléaire, non seulement française, mais également finlandaise et britannique, qui se sont posées des questions il y a quelques mois. Alors, on n'en parle plus trop, mais c'est toujours en suspens. Et puis, ce réacteur qui est alors une technologie non pas nouvelle, comme ça nous a été présenté, mais une technologie ancienne, un peu poussée, mais aucun réacteur de ces réacteurs n'a fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, il y a quand même un gros point d'interrogation. Et puis l'autre point d'interrogation, c'est dans l'actualité aussi, c'est la fameuse cuve, hein, puisque c'est l'élément essentiel du réacteur, la cuve et les générateurs de vapeur, qui ont été faites à l'usine du Creusot. Alors, soit l'usine du Creusot, soit une forge au Japon. Et on apprend aujourd'hui ou hier que l'une comme l'autre ont vendu des pièces à un certain nombre de réacteurs dans le monde et en France, et des pièces défectueuses. Alors, tant des générateurs de vapeur, ce qui est une pièce importante, que la cuve. Et le problème, c'est que la cuve de Flamanville comporte de nombreuses lacunes techniques, trop de carbone à tel ou tel endroit. Et le problème, c'est que cette cuve, elle a été montée déjà. Et donc, si vraiment il s'avérait qu'elle n'est pas fiable, il faudrait la démonter. Donc, ce qui veut dire un surcoût prohibitif et puis un calendrier qui est reparti encore. Donc là, on est sur une bascule. Est-ce que l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, qui se dit le gendarme du nucléaire en France, va taper sur la table et va imposer à EDF d'arrêter les dégâts et de retirer sa cuve, ou est-ce qu'au contraire, ils vont laisser filer? C'est la question des prochains mois.
Oui, puis techniquement aussi, je crois qu'on pouvait ajouter que du fait des matériaux qui ont été employés pour cette cuve, les différentes densités de matériaux, font que l'ASN a donné des recommandations à EDF qui les obligeraient à travailler à sous-régime. En fait, ils pourraient pas, s'ils veulent respecter la dangerosité de la résistance des matériaux. Je crois qu'il y a une question de résistance au centimètre carré, qu'en fait, il serait obligé de travailler à sous-régime, quoi. Ça fait qu'un surrecteur ne fonctionnerait pas comme il devrait, comme il avait été annoncé qu'il fonctionnerait, quoi.
Oui, c'est clair. C'est toutes les questions qui, à l'heure actuelle, et qui traînent déjà depuis au moins 6 mois entre le bras de fer, puisqu'on va appeler ça comme ça, hein. C'est un bras de fer entre EDF, qui va absolument, évidemment, mettre en route sa casserole de Flamanville, et puis l'autorité de sûreté nucléaire qui ne veut pas perdre la face. Et donc ce bras de fer, c'est justement, il n'y a pas d'homogénéité dans le fond de la cuve, et s'il y avait pas une surchauffe, mais par exemple s'il y avait un emballement, il faudrait le refroidir, ce réacteur, avec de l'eau froide par exemple, et ça crée des chocs thermiques. Et la cuve, effectivement, faute à cette homogénéité, ne serait peut-être pas en capacité de tenir le choc, ce qui veut dire qu'évidemment la cuve s'ouvrirait, il y aurait des fissures, et le combustible pourrait s'échapper. Combustible fondu, radioactif et tout ce qu'on veut. Donc la question, elle est bien là, depuis un certain nombre de mois. Est-ce que cette cuve est fiable, oui ou non? Alors il y a un tas de tests qui sont faits sur d'autres cuves qui ont été faites au Creusot également, au même moment, etc. Il y a des éprouvettes de matériaux, de métal qui sont analysées pour voir si c'est quand même fiable, oui ou non. Et alors, tu viens de souligner, effectivement, si c'était pas tout à fait fiable, il y aurait une proposition qui serait faite de faire quand même fonctionner le réacteur, mais en sous-régime. Alors donc, pendant, comme on dit qu'il aurait une durée de vie de 60 ans, on imagine un réacteur nucléaire qui coûte déjà la peau des fesses et qui roulerait en sous-régime pendant 60 ans. Encore une fois, c'est l'illustration qu'on marche sur la tête.
Mais alors, c'est quand même, on est quand même dans un monde, pour nous, c'est pas nouveau, parce que l'État EDF, hein, tel qu'on l'a qualifié depuis quelques décennies, voire peut-être même plus d'une cinquantaine d'années, dans ses pratiques, comment se fait-il qu'ils parviennent encore à avoir un tel pouvoir, une telle assurance vis-à-vis du pouvoir français, de l'État français, pour ainsi maintenir ses finances, hein, parce que ce sont des finances, on avait parlé d'Areva, EDF c'est pareil, maintenir des finances à flot, donc ça suppose prendre sur un budget, le budget national. Donc le nucléaire et son monde, c'est celui-là, c'est-à-dire que l'État colonial, l'État EDF, prétend aller vendre en plus une technologie qui est obsolète, faut dire ce qui est. C'est ce que tu viens de décrire en fait. Cette technologie, elle est totalement obsolète, et j'ai l'impression que les milliers de manifestants, ils avaient tous ça en tête en venant à Flamanville, et pourtant, on en est encore dans cette situation de non-dit, de L'État s'en fout complètement, en fait. Il envoie ses forces armées et point barre, quoi.
Oui. J'entendrai sur ton expression « et pourtant ». En effet, et pourtant, parce que d'un côté, effectivement, si on met sur un papier, si on liste tous les arguments qui font que, ça y est, on a arrêté des gars, on a joué apprenti sorcier, on est raré au manoumès, on revient en marche arrière, on devient, voilà, un peu de bon sens, on se rend compte en plus que tous ces derniers mois nous l'ont assez montré, que tous les arguments positifs qui avaient été habillés autour du nucléaire, c'est pas cher, il n'y a pas de CO2, ça nous rend indépendants, il n'y a pas, enfin tout ce qui est possible et imaginable de positif, on se rend compte que tout ça était complètement faux. Et puis on découvre en plus qu'effectivement au niveau financier c'est une catastrophe, puisqu'autant tant Areva que EDF sont dans une mouise financière pas possible, avec un taux d'endettement incroyable. EDF, on parle de 37 milliards quand même d'euros. Et malgré tout ça, ces derniers temps, on entendait les antinucléaires qui disaient bon, bah, avec tout ça, ça y est, maintenant tout le monde va comprendre, notamment les gouvernants, et on va faire marche arrière. Et ben non, malgré ça, et pourtant, je rebondis sur ton expression, et pourtant ça continue comme si de rien n'était. Donc la question qui se pose, c'est comment, ben, on en arrive à la question de fond, quoi. C'est la démocratie. Comment, qui prend les décisions, en fonction de quoi, quels sont les intérêts qui sont en jeu, et où on continue le nucléaire pour les intérêts de qui? Parce que c'est certainement pas pour le bien commun. Donc c'est vraiment ces questions-là. Et si on fait le lien avec les déchets nucléaires, parce qu'on n'est pas forcément dans le secret des dieux, au moins le citoyen, mais on voit par exemple que François Hollande, quand il était député de Corrèze, était contre l'enfouissement des déchets radioactifs, c'était clair. Ségolène Royal, qui n'est pas n'importe qui au gouvernement, avait exactement la même position en tant que député des Deux-Sèvres, était concerné par un enfouissement, projet d'enfouissement, était contre également. Or, on les voit maintenant au gouvernement et qui sont pour, comme si de rien n'était. On a même vu, quelqu'un me rappelait dernièrement, c'était sur une radio où j'étais interviewé, et on posait la question, effectivement, des amendements, on en a parlé sur votre radio aussi, les fameux amendements qui avaient été CIGEO, donc enfouissement, qui avaient été glissés dans la loi transition énergétique, qui avaient été retirés, qui avaient été remis, qui ont été remis dans la loi Macron. Enfin, il y a eu 14 de ces amendements qui ont été glissés, retirés, cavaliers législatifs et autres. C'est invraisemblable dans un pays démocratique. Et tout ça, en définitive, où on a vu le dernier qui était passé en force par le 49-3. Ce 49-3, où il y avait aussi un cavalier législatif, donc un amendement CIGEO. Et là, Macron a fini par cracher le morceau à un journaliste en disant « Mais bon, c'est moi qui l'ai passé, mais sur ordre. » Et sur ordre, donc, de François Hollande. Donc, et la boucle est bouclée. Voilà un élu qui est contre quand c'est chez lui. Et puis là, il est président de la République, il est pour. Donc ça montre effectivement qui gouverne, où sont les intérêts, où sont les puissances en fait, où sont les leviers, etc. Alors on parle du corps des mines qui est extrêmement puissant, c'est vrai,
oui.
Mais il y a certainement bien d'autres choses aussi, parce que sinon, alors il y a aussi le fait de ne pas perdre la face, on est tellement emmanché par exemple dans cette histoire de PR à Flamanville et autres, que effectivement le politique ne veut pas qu'il soit dit que, mais bon, ceci dit, on préférerait quand même qu'il vienne un peu intelligent et un peu plus sage.
Le rassemblement auquel tu as assisté à Flamanville, il était quand même dans un contexte particulier, préélectoral. Est-ce que ça s'est senti sur place, en particulier la présence de Cécile Duflot?
Oui, alors je vais déjà rebondir sur le fait que la présence de Cécile Duflot, que j'ai vu effectivement tout à fait au départ de la marche, mais il y avait d'autres candidats qui étaient là, candidats au moins à la primaire, n'est-ce pas? Alors c'est bizarre qu'on cite qu'une candidate et qu'on cite pas les autres. Et je ne roule pour aucune maison, moi, donc j'ai facile de dire ça. Mais ceci dit, c'est anecdotique, parce que, c'est pour répondre au fond de la question, parce que ces trois candidats qui étaient de la primaire de la famille écologique, qui est écologiste, qui étaient présents, j'allais dire, on les a pas entendus. Ça n'a transpiré nulle part. La parole ne leur a pas été donnée, ou je sais pas, je le donner n'est peut-être pas forcément un bon verbe. Mais bon, on les a vus pour ceux qui les ont vus, mais ils étaient vraiment, j'allais dire, discrets. Voilà. Donc, et moi, ça me convient très bien parce que là aussi, le politique, et qu'il soit vert ou qu'il soit écologiste, j'allais dire, il a quand même de sérieuses questions à se poser sur ce qu'il a pu faire quand il était élu, quand même. Hein.
Complètement.
Eh oui.
C'était le sens aussi de ma question.
Ouais. Bon, et ben voilà, j'y ai répondu. Non, mais j'étais quand même, moi, personnellement, très satisfait qu'effectivement, il ne se serve pas de cette manifestation comme tremplin ou autre.
C'est ça.
Et j'allais dire, on voyait plus Greenpeace encore, mais bon, qui a, qui sait se mettre en scène, et c'est pas du tout péjoratif là, hein, qui était là avec ses tenues jaunes, avec sa banderole et autres, et donc on voyait beaucoup plus Greenpeace que les candidats à une élection présidentielle.
D'accord. Et alors, moi, j'ai envie de te demander maintenant, quand verrons-nous une manifestation qui aura pour objectif de démonter et de démanteler cette centrale EPR qui est obsolète de toute façon? Ça éviterait qu'elle soit contaminée?
Oui, la première chose à faire. Alors, ce qui est curieux aussi, puis je cherchais aussi une autre... un enseignant, c'est qu'on croit toujours en l'EPR, par exemple, bon, c'est vrai, on vient d'engloutir quand même 10 milliards d'euros, comment faire marche arrière? Alors, j'entends souvent ça d'ailleurs, hein, de même que pour Bure, attendez, on a englouti tellement d'argent que, voilà. Mais ça, on peut rétorquer quand même que vous avez au moins un exemple en France qui s'appelle Superphénix.
Bien sûr, j'y pensais, ouais.
Oui,
tout à fait.
Une super casserole nucléaire qui nous a coûté là aussi les yeux de la tête. Et où on a quand même réussi, où enfin le politique a décidé un jour de l'arrêter. Donc, c'est pas parce qu'on engloutit une somme phénoménale qu'on n'a pas le droit de faire marche arrière. Et puis, on a d'autres exemples quand même dans le monde. Je pense en Allemagne, il y a Kalkar. C'était une centrale nucléaire qui a été installée quasiment à 90%, et puis qui a été arrêtée sous la pression populaire et autres. Il y en a une autre en Autriche qui s'appelle de mémoire Schwesendorf, ou un nom similaire. Et là, pareil, qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais été mise en marche, en fonctionnement. Donc, ça montre bien que si on veut, on peut. C'est pas une question du tout d'argent. C'est simplement une question de bon sens.
Mmh.
Mais là-dedans, ça, c'est un autre problème.
D'accord. Et Camille, tu veux intervenir? Non? Tu veux pas nous parler du démantèlement des centrales nucléaires?
Ah.
Là, il y en aurait pour un petit moment. Hein.
En effet. Alors, on peut peut-être quand même en dire un deux mots, parce qu'on n'en a pas parlé depuis un certain temps, mais bon, j'allais dire plutôt moins que plus maintenant, puisque EDF manigance de tous les côtés et tout ce qui est possible, imaginable, pour faire prolonger la durée de vie de ces casseroles. Et on était, puisqu'au départ, on disait, bon, elles ont une durée de vie qui est estimée à une trentaine d'années. On en a quelques-unes en France qui ont déjà largement dépassé ces 30 ans. EDF, enfin même l'autorité de sûreté nucléaire vient de donner son autorisation pour 2 ou 3 pour aller jusqu'à 40 ans, et on entend EDF depuis quelques mois qui dit mais on va faire en sorte aussi que ça aille jusqu'à 50 ans, voire comme les Américains, d'avoir une autorisation jusqu'à 60 ans de durée de vie. Alors on a le droit d'avoir les cheveux qui seraient sur la tête, mais ça montre bien que pour EDF, le démantèlement n'est plus à l'ordre du jour, et on a même une actualité, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours, où EDF venait d'annoncer froidement que le démantèlement qui était prévu pour se faire le plus rapidement possible, tout simplement parce que il y a encore la connaissance du site par les anciens travailleurs sur place, et quand ils vont prendre leur retraite, évidemment, on va perdre pas mal de connaissances de ces sites. Et EDF vient d'annoncer que non, tout compte fait, on avait bien réfléchi et que le démantèlement allait être déplacé de peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et évidemment, je voudrais dire évidemment, heureusement, l'autorité de sûreté nucléaire s'est étouffée en entendant ça et en disant, mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui est la politique qui est prévue pour l'instant. Alors, on n'entend plus parler de ce nouveau bras de fer, mais il est sous-jacent aussi, il est dans l'ombre. Et là, il y a un enjeu colossal. Alors, on comprend bien que l'idée d'EDF, c'est de dire, vu l'endettement que l'État dans l'État a actuellement, évidemment, si on pouvait repousser ce démantèlement et donc la facture sur les générations futures, ça serait une bonne chose.
Mmh. Ouais. Donc, pourquoi Jean-Louis me posait des questions, parce que effectivement, j'ai écrit une série d'articles sur le démantèlement où on en est. Donc, pour l'instant, il y a un démantèlement qui est en voie d'achèvement, bien que ça prenne du temps. C'est la première centrale des Monts d'Arrêt en Bretagne, où on retrouve une entreprise dont on va parler par la suite, de Richebourg, pour ce démantèlement.
Ça, c'est torché, cette émission.
Et donc, il y a sur Superphénix, dont on parlait, c'est en cours, mais c'est encore loin d'être fait, puisque le gros problème qu'ils avaient, c'était déjà de sortir le sodium, extraire le sodium, et après, il fallait pas qu'il en reste une trace, parce que après, il fallait qu'ils nettoient à l'eau, et donc ils ont été obligés de finir par caraméliser le sodium. Il y a quelques centrales qui sont en cours de démantèlement, donc il y a Chaux A, qui est dans la lignée des centrales qui existent actuellement. Et donc c'est ces centrales qui existent actuellement qui leur posent apparemment un gros problème pour lequel il y a un retard considérable et donc apparemment qui leur coûterait beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient effectivement prévu. Ils ont été écoutés par l'ASN il y a quelques mois. C'est là qu'ils ont annoncé qu'il y aurait énormément de retard. Et voilà, quoi. Et donc, on avance, mais tout doucement. Et puis donc, comme on parlait de Flamanville, de l'EPR, donc il y a en contrepartie la fermeture de Fessenheim. Et donc, apparemment, puisqu'on ne sait toujours pas la date de l'arrêt officiel, apparemment ce que DF voudrait, c'est que les centrales de Fessenheim, les deux unités, soient fermées au moment de l'ouverture de l'EPR, puisque en fait dans la loi qui a été votée, c'est on ferme des centrales lorsqu'on en a construit de nouvelles. Voilà.
Oui, mais on est bien d'accord, mais je mettrais quand même un petit bémol, mais encore plus méchant de mon côté. C'est que la loi de transition énergétique, elle ne dit pas tout à fait ça. On voit effectivement le gouvernement, on a entendu Hollande, on a entendu Ségolène Royal, qui disait effectivement on fermera Fessenheim que quand l'EPR sera en route. Mais la loi ne dit pas ça du tout, et je dirais même plus loin, la loi, elle va beaucoup plus loin. Elle dit, elle donne un chiffre de production électrique nucléaire en mégawatts, ou en gigawatts plus exactement, mais c'est un plafond. Ça ne veut pas dire du tout si on en ferme une, il faut ouvrir l'autre, ou si on en ouvre une, ça permet de fermer une autre. Pas du tout. C'est un plafond, c'est-à-dire qu'on peut faire 10% de moins, 20% de moins, 50% de moins, d'autant qu'on a les énergies renouvelables quand même propres qui montent en puissance. Donc on pourrait très bien, tous les calculs sont faits maintenant par Global Chance, enfin il y a un certain nombre de mégawatts et autres d'organismes français de pointe là-dessus, et qui disent qu'on peut très bien fermer aujourd'hui les deux réacteurs de Fessenheim, l'EPR, même s'il ne s'ouvre pas, on arrivera de toute façon à compenser le manque à gagner. J'irai même encore plus loin. On a tellement de problèmes en ce moment avec nos réacteurs, notamment avec les fameuses cuves qui ont été faites au Creusot, et on a un certain nombre de réacteurs qui posent, enfin de cuves qui posent question. Donc l'ASN les a obligés à EDF à fermer au moins momentanément les réacteurs, dont un Fessenheim, entre parenthèses. Et ce qui fait que, et on est quand même à l'entrée de l'hiver, et on est en train de se dire, bon ben, on nous a toujours fait croire qu'il nous faut absolument 58 réacteurs de production parce que l'hiver on en a besoin, et là on est en train de les fermer un certain nombre, je crois qu'on en est à 9 de fermeture, et puis ça gêne absolument personne pour personne ne parle, et l'hiver qui approche. Donc ça montre bien que si on voulait, encore une fois, on en est dans une volonté politique, si on voulait, on peut très bien fermer Fessenheim aujourd'hui et ne jamais ouvrir l'EPR, et ça ne posera, j'allais dire, c'est pas que ça ne posera aucun problème, parce qu'il faudra réfléchir à la question, il faudra activer, etc., etc., mais c'est tout à fait faisable.
Oui, ça veut donc dire que l'hiver ne sera pas froid, puisqu'on ferme.
Oui. Mais ce que tu pourrais nous expliquer, c'est qui sont ces espèces de chevaliers blancs de l'ASN ? Sont-ils vraiment parfaits pour soi-disant dénicher les grands défauts de la filière, des réacteurs, que ce soit des cuves ou des couvercles, parce que finalement les tauliers du nucléaire ont toujours eu des problèmes avec leurs matériaux.
Hein. Non, je vais faire une réponse de Normand, mais je viens de Normandie, hein, Flamanville, c'est quand même en Normandie. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut penser de l'ASN. Alors, je vais quand même aller un peu plus loin. Si c'était il y a quelques années, j'aurais dit que l'ASN, qui s'annonçait déjà le gendarme de nucléaire, nous étant connu il y a 20 ans à Bure, je me tapais sur le ventre quand il me disait ça, le gendarme du nucléaire. Je dis, ouais, tu penses, on sait ce que c'est qu'un gendarme, le voleur a toujours trouvé la parade, donc le gendarme, à la limite, à quoi sert-il si le voleur est plus intelligent que lui, ou plus fort, ou plus nombreux, etc., etc. On peut dire exactement la même chose de son bras armé, c'est-à-dire les techniciens. Ça s'appelle l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qu'on connaît beaucoup plus parce que c'est eux qui vont sur le terrain. Alors là, maintenant, sur l'IRSN, je serai très clair, c'est un organisme auquel je ne fais absolument aucune confiance. Nous, à Bure, on les fréquente et donc on peut dire ce qu'il en est. Alors malgré le fait qu'ils aient un département d'ouverture, je cite, d'ouverture à la société, régulièrement des séminaires, etc., etc., pour nous parler des déchets nucléaires au niveau de la géomécanique des roches, au niveau de l'éthique, etc., etc. Mais bon, non, l'IRSN n'y est pas. L'ASN, je serais beaucoup plus dubitatif parce que, d'une part, alors on va quand même le dire, d'une part, ils se disent maintenant, et c'est vrai, c'est les textes de loi, ils sont indépendants. Ils sont totalement indépendants, mais de même que l'IRSN, ils sont indépendants de l'État, donc du pouvoir politique, et indépendants des fabricants d'électricité, dont EDF. Alors, s'ils sont indépendants, tant mieux, ça veut dire qu'ils peuvent faire leur boulot bien comme il faut, mais d'un autre côté, ça me gêne énormément, parce que comment un organisme quelconque, comme ça, de sûreté nucléaire, c'est important, peut-il être indépendant du politique? Pour moi, jusqu'à maintenant, démocratie, le pilote, ça devrait être le politique. Alors après, évidemment, on y met tout ce qu'on veut dedans, comment est-ce qu'il pilote la machine, mais c'est quand même lui qui devrait... Et là, on voit par exemple que notre gouvernement et le président de la République nous disent « bon, on peut pas fermer Fessenheim parce que tout le temps que l'ASN ne dit pas que c'est pas une vieille casserole, qu'il y a pas de problème et autres, on ne peut pas fermer ». Donc c'est quand même grave, cette indépendance un peu ambiguë. Et d'un autre côté, quand on regarde, pour répondre bien au fond du sujet, quand on regarde l'ASN, c'est très ambigu. Parce que d'un côté, on voit son chef, M. Chevet, qui monte au créneau régulièrement. Encore hier, dans Le Monde, il y a une vidéo où il n'est pas tendre du tout sur EDF, sur la sûreté, surtout sur la sûreté. Comment peut-on avoir de la sûreté dans nos centrales alors qu'EDF est obligé de remettre ses casseroles au goût du jour au niveau sécurité et qu'EDF n'a plus de sous, c'est la première fois que ça arrive où ces deux choses se percutent. Donc M. Chevet s'arrache un peu les cheveux. Et donc, de ce côté-là, il tape sur la table, mais d'un autre côté, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ferme des réacteurs? Alors là, on va dire oui, ils viennent de fermer, comme j'ai dit, ils viennent de dire, là, ces 9 réacteurs-là, il faut les fermer temporairement, parce que tout le temps qu'on ne sait pas ce que c'est qu'il y a dans les cuves. Donc, je sais pas, l'ASN, je sais pas ce qu'il faut en penser, honnêtement.
D'accord. Si tu veux, on te propose de faire une petite pause musicale,
oui.
Et après on va se retrouver pour parler de Gullemont.
Donc le démantèlement.
De démantèlement. Donc oui, voilà. On va
tout de suite.
Bye.
Oui, on revient avec Michel du CEDRA. Et on va parler maintenant de... C'est une annonce, c'est une révélation qui a été faite par le Canard Enchaîné le 28 septembre dernier, à 30 km à peu près du laboratoire expérimental, parce que pour nous c'est encore un laboratoire qu'il s'agirait de démanteler avant qu'il devienne mortifère.
À Bure.
Donc à 30 km de Bure, dans le petit village de Gulmont-Villiers, en Haute-Marne donc, il y a un projet dans une ancienne usine de... ça doit être une scierie, je crois. Le groupe de Richebourg, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il est acteur dans le démantèlement des premières centrales nucléaires, a le projet d'installer une usine de tri de déchets nucléaires, de ferraille nucléaire, moi je dirais. Alors voilà, Michel-Marie, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur cette histoire et comment les habitants ont réagi, comment vous-même vous avez réagi?
Oui, alors soulignons effectivement que l'article du Canard Enchaîné était remarquable, hein, autant sur la forme, mais bon, ça c'est du canard, donc ça tape sur le bec, c'est vraiment superbement écrit, et puis surtout sur les informations. Mais le petit bémol aussi, là, c'est que l'article du Canard, en fait... est émané à l'origine d'un communiqué de presse du CEDRA, mais aussi d'autres associations comme l'EODRA, l'association des élus contre Bure, l'AZODEDRA qui est contre Bure, qui est du village de Grand, et puis la QV, la qualité de la vie de Michel Guérit. Donc on était quatre associations à avoir eu vent de cette affaire, d'avoir travaillé ce dossier et donc d'avoir fait un communiqué de presse et qui a été repris, on a été contacté par le Canard et donc qui a fait ce superbe article qui a fait parler du sujet et qui a fait parler beaucoup du sujet. Alors, pour faire simple, on avait eu vent de cette affaire, j'allais dire, dans le mois de janvier de cette année, mais sans trop de précision, en disant qu'il allait y avoir effectivement un truc de recyclage dans la région de Joinville, à 15 km donc de Bure, Joinville en Haute-Marne, Joinville en Champagne, comme il s'appelle maintenant. Et puis, mais sans plus. Et puis, comme on a tellement de lièvres à courir après Bure, thématique, hein, de tout ce qui est possible imaginable, on a laissé un peu sous le coude. Puis, il y a quelques semaines, nos adhérents qui se trouvent bien connaître la région et vivre bien et être en contact avec les populations nous a contactés en disant le projet de Bure serait à Gumont. Donc, 10 km au sud de Joinville, en allant sur Chaumont. Et là, on s'est renseigné, on a téléphoné à l'autorité de sûreté nucléaire au niveau régional, c'est à Chalon que ça se tient, et là, le directeur qu'on connaît très bien, puisque on fréquente les mêmes bancs au comité local d'information et de suivi de Bure, nous a dit que lui n'était pas du tout au courant, on n'avait pas eu de dossier, pas de demande, rien du tout, et donc on s'est tourné vers la DREAL, et la DREAL de Chaumont, donc département Haute-Marne, et là, nous a dit effectivement... Il y a bien de Richebourg qui est en contact avec nous. Alors, ils n'ont pas déposé de dossier, mais ils sont en train de... etc., etc. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à avoir des informations. Le Canard Enchaîné aussi, qui s'était mis en contact avec nous, a contacté de Richebourg, a obtenu pas mal d'informations. Et donc, on a fait ce communiqué. De ce communiqué, donc, du 8 septembre, de mémoire, tout est parti, parce que de Richebourg a demandé à nous rencontrer discrètement. Et de Richebourg s'est déplacé donc à Joinville pour nous rencontrer donc les deux directeurs du projet en question. On est resté 3h30 ensemble et donc on a eu pas mal d'informations, on a posé pas mal de questions et on a fini par ils ont été surpris d'ailleurs au bout d'un moment qu'on se revive un petit peu sur ce projet parce que dans la région, il y a Bure bien sûr, mais il y a d'autres projets, notamment à Saint-Dizier dont on pourrait parler un autre jour, d'une base de maintenance de matériaux EDF. Encore une fois, en relation avec le démantèlement, ou le grand carénage, la mise à niveau. et où là, il y aurait des pièces radioactives, alors que nous avions dit au départ qu'il n'y aurait pas de radioactivité dans, dans cette base de Saint-Dizier. Et là, de Richebourg nous dit que si, et que ça va, qu'il va y avoir des pièces qui vont bien cracher, alors que le projet de Gumont, bon, il y aura de la radioactivité, mais sans plus. Et donc, pourquoi se revivre contre Gumont, et pourquoi pas contre Saint-Dizier? Et donc, la réponse a été de dire bah, que c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'on assiste tant à Soulaine qu'autour de Bure. Bah, depuis que ces projets-là sont là, bah, moi, on assiste à ce qu'on appelle une véritable cancérisation de la région, puisqu'on a, on voit Bure s'installer, puis autour, on a vu une, les archives d'EDF s'installer, et puis une base EDF en Meuse, et puis une autre base à Saint-Dizier, et puis une formation dans un lycée à Saint-Dizier aussi, une formation pour faire des bacs et des bacs des BTS pro-nucléaire.
Oui, des BTS, voilà, effectivement.
Des BTS,
oui.
Donc c'est scandaleux, j'en profite pour dire que c'est un scandale que si nos élus n'ont trouvé que ça pour donner comme formation et comme avenir à nos jeunes, ça pose une vraie question sur leur responsabilité et sur leurs compétences à nos élus. Et donc tout ça montre qu'il y a une véritable cancérisation et donc arrive encore en plus ce projet de Gumont, et il y en a d'autres dans les tuyaux. Et donc ce qui fait qu'on est monté au créneau, et alors quand on a lu le dossier, un mini dossier qui, ben là on se rend compte que ben non c'est pas du tout anodin, parce qu'en plus ça sera pas que des ferrailles. Alors Océane, c'est pas anodin du tout, mais je vais aller au fond du problème. C'est, mais en fait ça ne serait pas que des ferrailles qui atterriraient à Bure, alors qui atterriraient dans une usine, comme tu l'as dit, une ancienne scierie, qui a abandonné depuis un certain nombre d'années, 7 ans ou 10 ans. Et donc, il y aura un terrain qui serait là, qui serait vierge, qui serait, voilà. Et donc, cette usine, cette hangar, servirait, en fait, à recevoir des matériaux contaminés, hein, des réacteurs, du démantèlement, faiblement contaminés. Et ça servirait pas du tout à être recyclé ou autre. Ça serait une usine, ce qu'on a appelé à un moment une usine Garcimore, c'est-à-dire une usine tour de passe-passe. On récupère la ferraille, on récupère les matériaux, on les redécoupe, on les tronçonne, etc. On en fait des petits bouts. On les remet dans des caissons et ils repartent à Soulaine ou à Morvier. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est l'usine tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'on ne gagne rien du tout, sinon du volume. Et pourquoi? Et ça, personne ne l'a dit jusqu'à maintenant. Bien, tout simplement parce que le site de Soulaine et surtout le site de Morvier ont été calculés par des brels, on va les appeler comme ça, et leur capacité du
des quoi
site...
Des brels. J'ai pas entendu.
Et donc, la capacité du site fait que dans 6 ans, le site de Morvier devrait être saturé.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est que le démantèlement commence seulement. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces ferrailles, de tous ces matériaux, parce qu'il n'y a pas que de la ferraille, mais de tous ces matériaux, du carton, du bois, des gravats qui sont contaminés, si Morvier est saturé? Et c'est là qu'intervient donc ce tour de passe-passe, c'est de dire, eh ben, avec 3 bennes qui vont arriver à Gumont, par exemple, ben, il faut qu'on en fasse il faut qu'on ait réussi à réduire ça à une benne et demie, par exemple. Donc c'est uniquement pour diminuer le volume de ces déchets qui vont dans la poubelle nucléaire, et cette usine de Gumont coûterait 10 millions d'euros. Donc un tour de passe-passe à 10 millions d'euros. Donc le contribuable va hautement apprécier, et je crois de mémoire, je me souviens plus du chiffre, mais je crois qu'on parle de ces choses contaminées, ces matériaux contaminés. Je pense que sur les 58 réacteurs, voire plus, puisqu'on parle d'installation nucléaire, donc il y a plus, c'est plus que les réacteurs, il devrait y avoir 2 millions de mètres cubes de ces déchets à mettre à Morvier. Donc c'est quelque chose d'impressionnant, c'est monumental. Et voilà donc à quoi servirait uniquement Gumont. Et on peut supposer que Gumont servirait, que l'usine de Gumont se démultiplierait, parce qu'il y en aurait besoin d'un certain nombre. Mais où les gens sont montés au créneau tout de suite, c'est qu'ils ont compris, bah évidemment ils ont compris déjà le fameux NIMBY, pas chez moi, parce que ceci, parce que cela, bah c'est la dépréciation évidemment sur l'immobilier, sur l'image de marque, sur le tourisme, sur etc. Et quand on a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, il y aura quasiment pas de rejet radioactif, d'ailleurs comme à Soulaine, il y aura des filtres THE, très haute efficacité, il se trouve que quand on les a rencontrés, on leur a dit, ok, très haute efficacité, comme à Soulaine, mais alors les gaz radioactifs, comment ils font eux? Parce que rien n'est piège, aucun filtre, rien du tout. Carbone 14, tritium, hydrogène radioactif, tout ça, ça passe à travers les filtres. Et là, on peut démontrer maintenant que oui, il y aura bien des rejets radioactifs dans l'air, et donc ils vont se déposer, etc. Et non, et que ce n'est pas anodin, puisqu'au départ, on disait aux gens, ça sera des déchets contaminés TFA, très faiblement actifs. Alors très faiblement actifs, ce n'est pas anodin non plus, hein. Ça c'est le vocabulaire du lobby nucléaire. Mais on découvre qu'il n'y aura pas que des TFA, mais il y aura aussi des FA, c'est-à-dire la catégorie au-dessus, ceux qui vont pour l'instant à Soulaine. Donc c'est pas une usine à cacahuètes, c'est pas une usine à bisounours, c'est vraiment une saloperie, on va dire ça comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les populations tout de suite la mayonnaise a pris. Le communiqué que nous avons pondu, donc les quatre associations en question, des habitants l'ont traduit sous forme de tract, les ont distribués dans toutes les boîtes à lettres, dans les villages et les alentours, etc., etc. Et tout de suite, elle s'est créée un embryon de gens qui ont dit pas de ça chez nous et qui ont fait une réunion, ce qu'ils appellent une réunion citoyenne, et où il y a eu 150 personnes qui sont déplacées dans un tout petit village qui doit faire
300.
Ouais, même pas. Hein, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc ça, ça montre que, j'allais dire, ça c'est quand même relativement nouveau, même si on l'a connu au moment des FAVL, hein, dont vous vous souvenez tous dans notre région et dans les régions aux alentours. Mais ça montre qu'effectivement, peut-être que le nucléaire, maintenant, notamment avec Bure et Soulaine, la population est saturée de tous ces mensonges, de « on vient chez vous faire un petit laboratoire, mais vous inquiétez pas », etc. Donc c'est très encourageant, et là on est dans la période à Gumont, où ce mercredi, il va y avoir une réunion aussi publique, où tous les gens sont de Gumont, et d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas évidemment que Gumont, Villiers, mais tous les alentours, les gens sont invités à venir, et l'idée c'est de créer une association locale, et qui sera bien en main. Alors autant le CEDRA a été lanceur d'alerte, puisque ça s'appelle comme ça, et avec le communiqué et autres, mais autant l'association locale, évidemment, ce sont les populations locales, on le dit assez, c'est la démocratie, ce sont les locaux de se prendre en main, ils se prennent en main, donc ça c'est très encourageant. Et on voit de Richebourg, mais j'irai beaucoup plus loin, si on met de Richebourg, il faut montrer du doigt de Richebourg, puisque de Richebourg aussi traîne un certain nombre de casseroles derrière elle, cette entreprise, cette holding, mais on a un vrai problème avec nos élus, parce qu'on découvre que nos élus locaux étaient très informés de ce projet bien en amont, et que les élus locaux, non seulement n'en ont pas pipé un mot aux populations, mais je pense à la communauté de communes dirigée par un monsieur Jean-Marc Fèvre, mais aussi le maire de Joinville et tous les vice-présidents, certainement. Mais non seulement les populations n'ont pas été informées, mais il n'y a pas eu de réunion de la communauté de communes pour débattre du projet. Donc autrement dit, le projet s'est fait en catimini entre quelques grands élus locaux, grands, c'est évidemment très péjoratif, quelques grands élus locaux et l'entreprise de Richebourg. Et quand nos populations locales, nos quelques contacts du début sont allés voir les conseillers municipaux de Gumont-Villiers et la mairesse, tout le monde leur a répondu « Ah ben non, on tombe des nues, vous nous apprenez ce truc-là, c'est invraisemblable. » Donc on était mi-septembre. Et on découvre quelques jours plus tard que la municipalité de Gumont-Villiers, la mairesse en tête, avec le président de la communauté de communes, ont été invités par de Richebourg dès le mois de mai, le 24 mai pour être précis, et pas au fast-food du coin, mais dans un restaurant UP, pour leur présenter le projet. Donc, au mois de septembre, on dit aux populations, ah, non, non, on n'est pas au courant, alors qu'ils avaient été invités, donc, par de Richebourg, dès le 24 mai. Donc, ça pose une vraie question de fond, encore une fois, sur la démocratie, sur la représentativité des populations, etc., etc. Donc, quand on rouspète, j'allais dire, quand on gueule après nos élus locaux, qui sont pourris, les Cahuzac, etc., etc., on se rend compte que même au niveau local, même chez nous, même dans nos ruralités, on retrouve exactement le même schéma. Donc là, ça pose vraiment question, oui.
Oui, je voulais rajouter un truc. On voit que la politique de l'ANDRA se calque sur celle d'EDF, c'est-à-dire que pour tout ce qui pose un peu problème, on sous-traite.
Hein, oui. Et
voilà.
Oui.
Alors, j'avais une deuxième question à te poser, parce que j'ai vu quelque part, mais je n'arrive plus à retrouver
la source,
qu'il y avait aussi un projet d'implantation justement d'une espèce de blanchisserie qui à Joinville qui nettoierait les vêtements de gens qui travaillent dans le nucléaire.
Jérôme, vous êtes très bien informé, félicitations. Oui, oui, alors on va en dire deux mots parce que effectivement, quand on avait vu passer cette information, en fait, la première information qui était passée au début de l'année, c'est une laverie allait venir, alors c'était même pas, je cherche le mot, c'est nous qui l'avons traduit par laverie industrielle, mais on avait vu que ça venait sur le bassin de Joinville. Alors on s'était renseigné sur cette laverie, et c'est après, juste après, qu'on a découvert que, dans un article du journal local qui disait « les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, il y a aussi de Richebourg qui viendrait, etc., etc., etc. » Mais ça, je fais une petite parenthèse avant de répondre à ta question, c'est quand le maire de Joinville, à l'origine, ces deux projets-là, on va parler de suite de Richebourg par exemple, quand il a été présenté, tout au début, il était présenté au conseil municipal de Joinville. c'était début février, le 9 février. Et en fait, il a été remis aux mains de la communauté de communes parce qu'elle a la compétence économique, donc ce qui est tout à fait logique. Mais je parle de ça, je fais cette parenthèse parce que quand le maire de Joinville a fait cette présentation du projet de Richebourg devant le conseil municipal, c'était pas l'ordre du jour. C'est un point qui a été rajouté au début de la séance du conseil municipal. Et à la fin, alors on a le compte rendu de la séance. Il y a absolument pas du tout de présentation. Qu'est-ce que ça peut contenir ce projet? Est-ce qu'il y a de la radioactivité? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Pas du tout. C'est juste de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Et à la fin, il y a unanimité du conseil municipal de Joinville pour aller plus loin dans ce projet. Et là aussi, c'est quand même sidérant que des élus puissent applaudir des deux mains sans savoir du tout de quoi il s'agit, uniquement de l'emploi. Et au jour d'aujourd'hui, on le voit encore, entre 10 et 15 emplois, et on entend que cet argument, ce projet de Richebourg, que 10 à 15 emplois. Et je reviens sur la laverie, parce que c'est le deuxième projet qu'il y a à Joinville, où là aussi les élus applaudissent à tour de bras cette chose-là. Ce qu'on ne leur dit pas, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette laverie, en fait, elle était à La Hague, donc ça veut tout dire. Cette laverie est à La Hague, mais comme elle n'était plus aux normes, alors elle recevait des linges, des combinaisons et autres contaminés des différentes centrales de France, puisqu'elle centralisait le lavage des centrales, plus une partie de linge qui n'était pas, ça s'appelle le linge rouge, et il y avait aussi du linge blanc, c'est-à-dire non contaminé. Cette laverie n'était plus aux normes, et donc il se trouve que toutes nos centrales sont obligées d'envoyer leur linge dans une autre laverie de ce groupe, c'est Unitech qui se trouve une usine américaine, un groupe américain, et sa deuxième laverie, elle était en Hollande. Ce qui fait que pendant très longtemps, pendant quelques années, tous les linges de France allaient en Hollande se faire nettoyer, ou décontaminer, ou on appellera ça comme on voudra, et les élus locaux au niveau national ont tapé sur la table en disant c'est quand même pas trop normal, et donc Unitech avait dit ok, on va créer une nouvelle laverie industrielle dans le 92, dans la banlieue parisienne. Et c'est de là qu'on découvre que pas du tout, ça vient pas dans le 92, ça vient à Joinville. Et tout simplement parce que là, c'est le deal qu'il y a entre les élus locaux du grand secteur de Bure. Si vous acceptez le laboratoire, on vous donne de l'emploi. Et toutes les entreprises qui veulent faire quelque chose avec le nucléaire, on les oblige, mais de Richebourg nous a craché le morceau, on vient chez vous à Gumont parce qu'on est obligé. C'est pas plus compliqué que ça, parce que voilà, on vous amène un laboratoire, on vous amène une poubelle nucléaire à Bure, mais regardez, en échange, on vous achète avec de l'emploi. Donc c'est de Richebourg, c'est Unitech avec sa laverie industrielle, mais on ne parle pas du tout, pour la laverie, pour répondre jusqu'au fin fond, la laverie industrielle, personne ne parle justement de cette contamination, comment est-ce qu'elle repart dans la Marne, est-ce qu'il y a des rejets, enfin... Il y a un blackout complet là-dessus, et donc on va aussi s'occuper de ce projet.
Oui. Michel, je vais être obligé de te couper, mais je te félicite parce que tu es sélectionné pour le marathon radiophonique qu'on va organiser à Radio Primitive très prochainement. Mais là, il faut qu'on laisse la parole à Jean-Mi parce que sinon il va exploser. Il a une annonce importante à faire. Et nous, on se retrouve très très tôt. Tu quittes pas l'antenne surtout. Hein.
Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. À bientôt. Non, je vais pas exploser. Je voulais juste dire que écouter les Grégor, c'est bien, mais on pouvait aussi agir, alors en descendant dans la rue, mais aussi en restant chez soi. Et par exemple, là, il y a une petite campagne de harcèlement qui est menée soit par téléphone, soit par courriel, soit par courrier, contre trois mutuelles, la MMA, la MAF et la GMF, qui possèdent un ensemble immobilier qui s'appelle, un holding immobilier qui s'appelle la Covea Immobilier. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, le 6 septembre, il y a eu un accident sur un chantier. Sur un chantier dans le 7e arrondissement, hein, vue de Bretagne, hein. On n'est pas en banlieue là, hein, c'est très très proute, et le travailleur qui est tombé et qui s'est blessé gravement était évidemment un travailleur sans papier. Les contremaîtres ont refusé d'appeler les secours, il a fallu que les travailleurs sans papier appellent eux-mêmes les pompiers, hein, qui ont mis un peu plus de 3h30 pour venir. À la suite de ça, je souris mais c'est horrible, la boîte qui embauchait les sans-papes a porté plainte contre le travailleur pour non-respect des mesures de sécurité, donc devant cette espèce de goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les 25 salariés marliens de la société NBAT ont occupé l'immeuble.
Donc ils occupaient depuis le 6. Et donc Covea Immobilier, qui, je vous le répète, est une filiale des mutuelles GMF, MMA et MAAF, la MAAF, eh ben, au nom de leur valeur mutualiste, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, elles sont allées saisir le TGI de Paris pour expulser les travailleurs en grève. Et cette expulsion a eu lieu vendredi matin à 7h avec la police, hein, puisque il a fallu à peine 9 jours hein, pour obtenir l'expulsion. Hein. On voit hein, quand la justice elle veut faire des référés et qu'elle travaille vite, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, ce qui est demandé aux gens bah, qui peuvent pas évidemment aller sur place, hein, c'est évident, mais bon, il y a un mouvement de soutien. À noter que pour une fois, l'Union départementale CGT Paris fait un travail remarquable. De temps en temps, hein. Faut quand même le dire. Mais ce qui est demandé aux gens de l'extérieur, ben, c'est d'écrire à leur mutuelle. Parce que les mutuelles, c'est quand même un truc dont on est encore normalement sociétaire ou voire même pour certains administrateurs. Hein. Donc ben, si vous êtes sociétaire ou administrateur de la GMF, de la MMA, de la MAF, hein, vous leur écrivez pour demander déjà d'abord qu'est-ce que c'est que ce truc-là, hein, la COVEA, hein, qui achète 12 000 mètres carrés dans le 7e arrondissement. C'est l'ancien site de Michelin qui était en train d'être fait. Vous imaginez ce que ça peut représenter, 12 000 mètres carrés dans le système, dans le 7e arrondissement? Moi non plus. Hein. c'est énorme. Et leur demander ben, pourquoi à la fois ils utilisent votre argent de sociétaire pour faire ce genre de truc, et que quand ben, la COVEA qui est donneur d'ordre, hein, donc évidemment elle est responsable au niveau de la loi, quand il y a des gens qui essaient de faire valoir leurs droits, eh ben ils se font virer. Alors, et on leur demandait d'appuyer les revendications des grévistes et des occupants qui sont prises en charge de l'accident du travail de leurs collègues. Établissement des bulletins de paye correspondant à l'ancienneté de chacun. Il n'y a pas de bulletins de paye qui sont faits sur les travailleurs maliens là. Paiement de l'intégralité des salaires non perçus, évidemment, MBAT verse pas les salaires, et obtention des demandes d'autorisation de travail pour les salariés étrangers nécessaires à leur régularisation administrative. Alors évidemment, c'est pas des papiers pour tout le monde, et évidemment, la régularisation par le travail, c'est toujours délicat parce que ça implique de renouveler après chaque année, quoi. Mais bon, il y a des gens qui sortent du bois là, qui sont travailleurs sans papier, qui occupent leur chantier, qui font part d'un courage, d'une dignité et d'une envie de se bagarrer qui est vraiment remarquable.
J'ai une question à te poser, vas-y. Qui est importante pour les auditeurs. Est-ce qu'il y a une lettre type?
Non, du tout. Mais on peut aller voir. Voilà, on peut aller voir sur le DCGT 75. Il y a toutes les informations et il y a des contacts qui sont donnés. Mais voilà, ça se trouve assez facilement et rien qu'un petit courriel, s'il y en a des milliers, ça sera vraiment très très bien, quoi.
De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche.
Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'était le Rigor, chaque semaine c'est l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussilibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Allez, à bientôt.